10h10, en temps universel, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. Haïti, où les enlèvements se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. On rejoint Godson Pierre d'Alter Press à Port-au-Prince. Elle chantait son amour pour Paris et la France, elle, l'américaine devenue française, Joséphine Baker, entre au Panthéon. Aujourd'hui, on retracera son parcours. Avant de vous retrouver, Benoît Ferrand, le journal de la première ensemble, le ministre des Outre-mer est en Martinique.
Sébastien Lecornu doit en principe entamer le dialogue ce matin avec l'intersyndicale locale. Dialogue qui s'annonce, on le sait, difficile. En Guadeloupe, il n'aura duré en tout et pour tout que 10 minutes.
Rendez-vous, Benoît, dans une quinzaine de minutes. Avant tout cela, je vous emmène à Bridgetown.
With firm resolve.
Avec une ferme résolution et d'une seule voix, à partir de ce jour et pour toujours, nous déclarons la Barbade République parlementaire.
C'était donc il y a quelques heures, vous l'aurez compris, à la Barbade, la plus orientale des îles des Caraïbes, située à 300 km des côtes du Venezuela. La Barbade qui dit adieu à la couronne britannique après 4 siècles de sujétion et devient ainsi une toute nouvelle république. La reine Elisabeth II perd l'un de ses joyaux. Vive la Barbade!
Nous sommes des Barbadiens. Nous, le peuple, devons donner à la République de la Barbade son esprit et sa substance. Nous devons façonner son avenir.
Et celle que l'on entend là, c'est Sandra Mason, jusque la gouverneure générale du pays. Elle est aujourd'hui présidente, la toute première de l'histoire de la Barbade, élue en octobre dernier. Elle a donc officiellement prêté serment lors de cette cérémonie hier soir à Bridgetown, en présence du prince Charles. Et si l'île était indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, ça n'a pas empêché ce matin la souveraine britannique Elisabeth II de publier un message émouvant, adressant ainsi ses félicitations à cette toute nouvelle république.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On reste dans les Caraïbes avec Godson Pierre en ligne avec nous de la capitale haïtienne. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence Alter Press à la une de votre site et de l'actualité d'Haïti, Godson. Les enlèvements qui se multiplient à l'approche de cette fin d'année, ce qui ne manque pas bien sûr de susciter l'angoisse des familles.
Bien, les kidnappings sont beaucoup plus nombreux à la capitale, y compris dans la zone du Champ de Mars où se trouve le palais présidentiel. C'était le cas hier encore. Les victimes sont des personnes œuvrant dans diverses branches d'activité. Les secteurs éducation, culture et médias sont fortement affectés, tout comme le commerce. C'est ce que confient les proches qui ne cachent pas l'angoisse dans laquelle ils sont plongés. Plus de 800 cas répertoriés depuis le début de l'année. Ces derniers temps, certains jours, on compte pas moins d'une vingtaine d'enlèvements. La libération se fait généralement contre rançon après des négociations ardues. 15 des 17 missionnaires américains et canadiens enlevés depuis le 16 octobre sont toujours séquestrés par le gang 400 Marouzou basé en périphérie nord-est de la capitale.
Et le gouvernement Godson avait annoncé des stratégies pour faire face à ce phénomène des enlèvements et pour le moment, il faut bien le dire, hein, il n'y a pas vraiment de résultats.
Et c'est le Premier ministre de facto lui-même qui parlait la semaine dernière d'une stratégie mise en place par la police, soutenue par l'armée, visant à resserrer les taux autour de certaines zones de non-droit. Ariel Henry disait que cela allait se poursuivre et s'intensifier. De son côté, le chef de la police, Franz LB, avait pour sa part dirigé une réunion de commandement élargi autour de la situation sécuritaire. Il était question de mettre en place un système de sécurité capable de contrecarrer en un temps record la criminalité.
Et puisque les résultats se font attendre, on le rappelle, la société civile Godson elle-même s'est engagée à travailler sur ce dossier.
Eh bien oui, il y a un groupe de travail sur la sécurité qui est composé d'experts en sécurité, certainement en droits humains. Ce sont des membres du secteur privé, du secteur syndical, religieux, du secteur académique, de la diaspora et même d'associations de base de la société civile. Parmi eux, on compte l'ancien directeur général de la police, Mario Andresol. La mission principale du groupe est d'encourager la collaboration entre les citoyens et l'appareil sécuritaire d'Haïti en vue de résoudre le problème de l'insécurité. l'insécurité multidimensionnelle et multiforme qui affecte le pays.
Gunson Pierre d'Alter Press en ligne avec nous. Merci, on s'intéressera particulièrement demain au cas des femmes enlevées par ces gangs qui terrorisent Haïti.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Pour l'heure, on retourne au Honduras. On en a beaucoup parlé hier au lendemain des élections générales. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Dimanche, les Honduriens ont voté pour la présidentielle, mais aussi les législatives, les municipales. Le dépouillement, Arim, est toujours en cours.
Oui, un peu plus, la moitié des bulletins sont dépouillés, mais la tendance semble irréversible. Pas encore de confirmation de la part des autorités électorales, mais la victoire de Xiomara Castro est désormais acté par la société, par le secteur économique aussi. La preuve, justement, cette prise de décision du monde des affaires à lire dans la tribuna, le secteur privé se range derrière Xiomara Castro et se dit prêt à travailler avec elle. Titre le journal hondurien. D'après la tribuna, les organisations patronales espèrent que la nouvelle présidente pourra tenir ses promesses qui consistaient à rendre le pays plus attrayant pour les investisseurs. Selon les informations du journal, des représentants de l'industrie rencontreront prochainement des conseillers économiques de Xiomara Castro afin de discuter d'un plan de relance économique.
Le Venezuela, lui, a voté le dimanche précédent pour des scrutins locaux, notamment l'élection des gouverneurs. Et voilà que la justice annule le scrutin qui a eu lieu dans l'état de Barinas, fief de la famille Chavez.
Oui, c'est à la une de la presse nationale ce matin. Le tribunal suprême de justice a ordonné au Conseil national électoral CNE de convoquer un nouveau scrutin. Ce sera le 9 janvier prochain et selon les projections du CNE, cité par Ultimas Noticias, le candidat de l'opposition Freddy Superlano dévance son rival socialiste Argenis Chavez, le frère de l'ex-président Hugo Chavez, mais Superlano a été déclaré inéligible en amont des élections régionales. Le candidat écarté, lui, rejette la décision de la justice et se considère toujours comme le vainqueur. Il dénonce dans le journal El Nacional, proche de l'opposition, une tentative, je cite, d'annuler la volonté du peuple. Selon le chef de la diplomatie européenne, José Borrell, qui s'exprime dans le même journal, les observateurs électoraux de l'Union européenne ont relevé lors du scrutin, entre autres, un certain manque d'indépendance judiciaire, le non-respect de l'état de droit, ainsi que la non-validation arbitraire de certaines candidatures.
RFI, les voix du monde.
8h17 à Washington, le message se veut rassurant alors que le monde tremble face à la nouvelle menace Omicron. Le président américain Joe Biden hier a tenu à adresser ces mots à ses concitoyens au sujet du variant du Covid.
La communauté scientifique d'Afrique du Sud a rapidement informé le monde de l'émergence de ce nouveau variant. Ce genre de transparence doit être encouragé et applaudi, parce que cela augmente notre capacité à répondre rapidement à toute nouvelle menace. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Le jour même où l'OMS a identifié le nouveau variant, j'ai pris des mesures immédiates pour restreindre les voyages en provenance des pays d'Afrique australe. Mais bien que ces restrictions puissent ralentir Omicron, elles ne peuvent l'empêcher. Mais voilà ce que ça permet. Cela nous donne du temps pour agir plus, pour bouger plus vite et pour nous assurer que les gens comprennent. Il faut que vous vous fassiez vacciner. Il faut que vous ayez cette injection. Il faut faire ce rappel. Tôt ou tard, nous allons avoir des cas de ce nouveau variant ici aux États-Unis. Ce variant est une source de préoccupation, mais pas une raison de paniquer.
Voilà, pas de quoi paniquer, on ne s'affole pas, dit Joe Biden. Pourtant, Arim, la presse, elle, ne voit pas ça du même œil.
Exactement, le variant Omicron représente bel et bien une menace politique, au moins pour le président américain, écrit le site d'information The Hill. Les républicains utilisent déjà l'existence de ce variant et sa très probable circulation aux États-Unis pour accuser Joe Biden d'avoir échoué à freiner la propagation de la pandémie. Hier, la porte-parole du parti républicain a déclaré que le président n'avait pas pu éradiquer le Covid comme il l'avait promis. Il est vrai, souligne USA Today, que Joe Biden a placé la lutte contre la pandémie et le redémarrage de l'économie au centre de ses priorités. Le 4 juillet dernier, jour de l'indépendance aux États-Unis, il avait notamment annoncé que le pays était, je cite, plus proche que jamais de l'indépendance de qui ? Eh bien, de ce virus mortel. Face à la résurgence, justement, de ce virus, avec aujourd'hui un nouveau variant, la Maison-Blanche France mise avant tout sur la vaccination. Le problème, écrit USA Today, c'est que la justice bloque pour l'instant la demande de l'administration démocrate d'une vaccination obligatoire pour les salariés des grandes entreprises, plusieurs États conservateurs, mais aussi certaines entreprises ne veulent pas en entendre parler et ont déposé des recours.
Les États-Unis, merci Harim. Où l'un des symboles de New York séparait les couleurs françaises hier soir, l'Empire State Building et sa pointe en bleu, blanc, rouge hier soir en hommage à la plus française des Américaines, Joséphine Baker. Oui, car c'est avec la prononciation française qu'elle voulait que l'on prononce donc son nom, Joséphine Baker, star du musical naturalisé française en 1937. Elle deviendra ce soir la première femme noire à entrer au Panthéon, ce temple des héros de la République française. On revient sur le parcours hors du commun de cette femme extraordinaire avec Isabelle Chenu.
Paris, 1925. Une jeune américaine métisse de 18 ans fait scandale. Elle vient d'être recrutée pour danser dans une revue nègre, dernière mode de ces années folles. Elle s'appelle Joséphine Baker et personne ne la connaît encore. Avec sa danse sauvage, ses cheveux plaqués coupés à la garçonne, ses grimaces de clown et ses tenues légères, elle fait découvrir aux Français le charleston, le jazz hot et le black bottom. 30 ans plus tard, c'est une star qui se souvient de ses débuts chahutés.
On a commencé à jouer la musique et j'ai commencé à danser. Et il y avait des gens qui disaient « assez, remboursé ». Heureusement que je ne comprenais rien. Alors, l'autre côté, il y avait les étudiants, eux, disaient « Oh, c'est merveilleux, bravo, bravo !»
En 1930, la petite fille pauvre, née à Saint-Louis dans le Missouri, est devenue la Vénus noire parisienne. Elle chante pour la première fois au Casino de Paris. Immense triomphe.
J'ai deux amours, mon pays est Paris. Mon cœur est ravi.
Joséphine Baker incarne la femme libre, émancipée de cet entre-deux-guerres. Le journaliste et écrivain Jacques Pessis lui a consacré une biographie éditée chez Folio.
Elle est dans la misère, elle est dans une baraque en planche, elle n'a pratiquement pas été élevée par sa mère, elle a connu tout ce qu'une noire peut connaître à l'époque du Ku Klux Klan. Sa maison a été incendiée, on l'a jetée de partout, donc elle en profite, elle savoure la vie.
Elle savoure la vie, Joséphine, construit sa légende. Elle épouse Jean Lion en 1937 et obtient la nationalité française. Deux ans plus tard, elle s'engage pour la France libre du général de Gaulle.
Angleterre, Égypte, partout dans le désert, Afrique du Nord, revenant ici, etc., etc. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, aider la France de remontrer comme elle était avant.
La guerre est finie, mais dans les années 50, le combat pour les droits des Noirs dans son pays de naissance, l'Amérique, reste à mener. Jacques Pessis.
On est à New York dans un restaurant qui s'appelle le Stork Club, très célèbre, très select, où elle est invitée par un ami blanc. Elle est admise à l'entrée difficilement, et puis à table, elle commande, et puis curieusement, les plats n'arrivent pas, alors que ceux commandés par son copain arrivent. Et là, elle fait un scandale. Elle appelle la presse, elle appelle son avocat. Finalement, elle va avoir gain de cause. Et les Noirs vont pouvoir entrer dans ce restaurant et dans d'autres clubs. Parce qu'il y a aussi ces clubs où elle refuse de chanter si les Noirs ne sont pas admis.
Au lendemain de la guerre, Joséphine a une ambition personnelle. Avec son mari, Jo Bouillon, elle adopte 12 enfants de diverses nationalités.
J'avais voulu faire quelque chose pour prouver au monde entier que si on voulait bien, on pouvait vivre ensemble. La fraternité.
Elle installe ainsi sa famille dans un grand château en Dordogne où elle entreprend de construire un véritable site d'attraction touristique.
Elle a vécu dans ce château qui était le rêve de sa vie en dépensant beaucoup plus qu'elle ne gagnait car l'argent, elle n'en avait pas la moindre notion.
En 1968, le château est revendu. La princesse Grace Kelly lui crée une revue à Monaco. Elle remonte sur scène. Le public est au rendez-vous jusqu'au dernier soir. Le 12 avril 1975, Joséphine Baker tire sa dernière révérence, victime d'une attaque cérébrale à 68 ans.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps.
Joséphine Baker, dont le corps en restera à Monaco. C'est enfin un tombeau vide qui entrera ce soir au Panthéon, tombeau dans lequel on retrouvera de la terre, des échantillons de terre américaine, parisienne et monégasque. Vous suivrez l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker tout à l'heure sur RFI avec une édition spéciale à partir de 17h30. Lui entre au Panthéon du foot.
Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est... Lionel Messi.
Grande. Lionel Messi, señores. Otra vez.
Lionel Messi, qui s'est vu donc décerner hier soir à Paris son 7e ballon d'or. La photo du footballeur argentin est à la une de tous les journaux du continent, Harim.
Oui, exactement. Et là, on entendait un extrait de la cérémonie, bien sûr, hier au Théâtre du Châtelet. Cérémonie retransmise en direct par les télévisions argentines. Et justement, Michael, la presse argentine n'est pas très avare de commentaires. Vous imaginez, Lionel Messi renforce encore plus sa légende dans l'histoire du football, écrit Clarine. Avant de continuer, plus poétiquement, parmi tant d'étoiles, il y en a une qui brille plus que les autres, que toutes les autres. Une récompense bien méritée, estime Olé, car après tout, Messi a contribué à remporter avec l'Argentine cette année la Copa América au Brésil grâce à une finale inoubliable.
Et il a déjà promis qu'il décrocherait l'an prochain un 8e ballon d'or. Merci beaucoup, Harim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Michael.
Il est arrivé hier soir en Martinique. Le ministre des Outre-mer va tenter ce matin d'ouvrir le dialogue avec l'intersyndicale locale.
Oui, en principe, en tout cas, car le dialogue s'annonce difficile en Guadeloupe, on le sait, il n'aura duré en tout et pour tout que 10 minutes. En Martinique, d'ailleurs, une première rencontre avec le préfet n'avait duré qu'un peu plus d'une heure. Alors on va tenter aujourd'hui de renouer, comme on dit, les fils du dialogue. Mais on le disait, ça ne va pas être simple. Écoutez, Magali Zamor, porte-parole de l'intersyndicale de la Martinique, au micro de Pierre-Yves Honoré.
Nous avons pris le temps d'avoir moult réunions, décidé de convenir d'un accord de méthode. Et dans l'accord de méthode, d'ailleurs, le préfet l'a annoncé, la plateforme de revendication doit être traduite en thématique. Et dans la priorisation, la première thématique concerne la santé. La deuxième, la jeunesse, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, que découvrons-nous à l'orée des échanges? Le ministre, qu'est-ce qu'il annonce? Qu'il faut que la loi de la République soit appliquée. Là, il est sorti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec le préfet. Ils ne se sont pas accordés. Nous disons aujourd'hui clairement, et c'est clair et net, il y a un faible taux de vaccinés en Martinique. Il y a une continuité des soins à assurer. D'autant plus qu'on nous parle de 5e vague. Donc avec qui ils vont soigner? Donc aujourd'hui, nous disons, la Martinique dit non. Non au pass, non à l'obligation. Donc il va falloir revoir la copie. Et autant le ministre il est déterminé, autant nous aussi, nous sommes déterminés.
Voilà pour la Martinique. Retour maintenant en Guadeloupe, où, nous le disions, il n'y aura eu qu'un dialogue de sourds entre le ministre, l'intersyndicale et le collectif mené par le LKP, notamment parce que intersyndicale et collectif n'ont pas voulu condamner publiquement les violences contre les forces de l'ordre. Écoutez, le ministre des Outre-mer, c'était hier soir, il était alors en Guadeloupe avant son départ vers la Martinique.
Il y a un préalable républicain sur lequel on ne peut céder, c'est la condamnation de la violence. Et je l'ai dit hier au soir, j'ai été surpris de voir apparaître dans les communications de l'intersyndicale une revendication nouvelle, celle qui consistait à amnistier, à suspendre, interrompre les différentes procédures judiciaires engagées contre celles et ceux qui, la nuit, s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre, pour le dire clairement, se sont dotés d'armes à feu, de pistolet 9 mm, pour tenter délibérément d'assassiner des militaires de la gendarmerie ou des policiers. On s'éloigne dangereusement d'un dialogue social ou d'un dialogue syndical. Il n'y a pas de point commun entre ce qui se passe la journée et ce qui se passe la nuit. Personne ne pourrait comprendre, à Paris, en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs, que l'on puisse l'accepter. La nuit, je le redis, et lorsqu'on se précipite sur un scooter et qu'on s'arrête le long d'une portière d'un véhicule de police et qu'on cherche à vider son chargeur dans la tête d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ça n'a rien à voir avec un pompier qui n'est pas content parce qu'il y a une obligation vaccinale.
Voilà, Michael, ça ne va pas être simple. On pourrait résumer ça comme ça. Bon après-midi, à demain.
Voilà, vous avez le sens de la formule, Benoît. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous, à l'écoute des RFI.